Voilà, je vous invite à entendre tout de suite un texte du prophète Ézéchiel au chapitre 34, les versets 11 à 16. Donc, prophète Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 16. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin, de même qu'un berger prend soin de ses bêtes le jour où il se trouve au milieu d'un troupeau débandé, ainsi je prendrai soin de mon troupeau. Je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de brouillard et d'obscurité. Je le ferai sortir d'entre les peuples, je le rassemblerai des différents pays et je l'amènerai sur sa terre. Je le ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans le creux des vallées et dans tous les lieux habitables du pays. Je le ferai paître dans un bon pâturage. Son herbe sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. C'est là qu'il pourra se coucher dans un bon herbage et paître un gras pâturage sur les montagnes d'Israël. Moi-même, je ferai paître mon troupeau. Moi-même, je ferai coucher, oracle du Seigneur Dieu. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. Mais la bête grasse, la bête forte, je la supprimerai. Je ferai paître mon troupeau selon le droit. Voilà, c'est une belle vision d'Ézéchiel, qui en a beaucoup, pour le peuple. Le peuple qui est en détresse, puisqu'il est en déportation à Babylone. Je veux dire, donc, c'est la période de l'exil. Dieu vient lui-même dans ce texte, c'est ce qu'il dit, Dieu vient lui-même pour rassembler, pour prendre soin, pour faire vivre. Et l'histoire a donné raison à Ézéchiel. C'est ça qui est intéressant et qui fait la force peut-être de ces prophéties de ce prophète. Ici se révèle un Dieu qui est prévenant, compatissant, qui est épris de justice. Et quelques siècles plus tard, on retrouvera ces idées dans la prédication du royaume de Jésus. Vous voyez, lorsque Jésus fait coucher sur l'herbage le peuple pour la multiplication des pains, la brebis perdue, etc. On trouve des accents là qu'on va revoir dans le Nouveau Testament. Alors, ces idées qui sont dans la prédication du royaume, je voulais qu'elles soient vôtres, chers amis, frères et sœurs, et c'était pourquoi, avec Ézéchiel, je voulais vous accueillir aujourd'hui pour ce culte. Voilà, car pour nous aujourd'hui, ce récit, je crois, est porteur d'espoir. Parce que dans le chaos actuel, savoir que Dieu révélé par les prophètes et en Jésus-Christ est tel qu'Ézéchiel le perçoit, je crois que c'est un encouragement à espérer. Il n'y a aucune fatalité, et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, comme le soutient l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Voilà. Alors, quels que soient vos engagements, vos appartenances, sachons tous ensemble aller à l'essentiel, c'est-à-dire à la parole de Dieu, et soyons les uns pour les autres les porteurs d'espérance dont le monde a besoin. Et je vous invite à prier Dieu. Voilà, Père, merci pour cette journée. Même si elle est un peu sombre et si le ciel est un peu gris. Merci pour cette journée, même si l'épidémie continue et que le confinement continue avec elle. Mais merci pour cette journée parce que tu nous rassembles les uns et les autres au-delà des distances, par la force de ta parole et la puissance de l'esprit. Tu nous rassembles pour entendre un message d'espérance, un message de joie, de justice et de dignité dont nous avons besoin les uns et les autres et dont le monde a besoin lui aussi. Alors Père, dans l'écriture, dans le témoignage de la Bible, il y a des prophéties, il y a des textes, il y a des récits qui sont là, qui sont porteurs de sens, porteurs de lumière. Alors nous te prions, Père, que à ton esprit, ouvre nos cœurs à ces témoignages, afin que nous puissions en vivre dans la joie et dans l'espérance. Amen. Et je vous invite à entendre trois textes aujourd'hui, trois textes dans la première alliance. Il y en a certains des textes que vous connaissez, en particulier le premier, vous le connaissez bien. C'est dans la Genèse au chapitre 3, les versets 20 à 23. Alors, l'homme appela ça. Alors, Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden où ils ont fait quelques sottises puisqu'ils ont consommé de l'arbre du bien et du mal alors que ça leur a été interdit. Et donc, ils sont mis un peu, ils sont un peu mis en index, ils sont punis, ils sont maudits et ils vont être mis à la porte. Alors, l'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il le revêtit. Le Seigneur Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, maintenant qu'il ne tente pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais. Le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il posta des chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà, ça vous rappelle des souvenirs, hein, ça, moi j'espère. Voilà un autre texte, bon, qui est un peu tombé dans l'oubli, mais qui est un texte important et que peut-être aussi vous connaissez. C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 21, des versets 4 à 9. Il parle, alors, les Hébreux ont traversé le désert et ils arrivent aux portes de Canaan. Ils partirent de hors la montagne par la route de la mer des Joncs en contournant le pays d'Édom. Mais le peuple perdit courage en chemin. Le peuple se mit à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a ici ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère, c'est-à-dire la manne. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui les mordirent et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant, intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur lui dit « Fais faire un serpent brûlant, fixe-le à une hampe, quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent d'airain et le fixa à la hampe, et lorsque un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent des reins, et il avait la vie sauve. Et un troisième texte, toujours dans l'ancienne alliance, la première alliance, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 24, les versets 14 et suivants, 14 à 22. Tu n'exploiteras pas un salarié malheureux et pauvre, que ce soit l'un de tes frères ou l'un des immigrés que tu as dans ton pays, dans tes villes. Le jour même, tu lui donneras son salaire. Le soleil ne se couchera pas sans que tu l'aies fait, car c'est un malheureux, et il l'attend impatiemment. Qu'il ne crie pas contre toi vers le Seigneur, pour toi ce serait un péché. Les pères ne seront pas mis à mort pour leurs fils. Les fils ne seront pas mis à mort pour leurs pères. C'est à cause de son propre péché que chacun sera mis à mort. Tu ne briseras pas le droit d'un émigré ou d'un orphelin. Tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Tu te souviendras qu'en Égypte tu étais esclave et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté de là. C'est pourquoi je t'ordonne de mettre en pratique cette parole. Si tu fais la moisson dans ton champ et que tu oublies les épis dans le champ, tu ne reviendras pas les prendre. Ce sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans toutes tes actions. Si tu goules des oliviers, tu n'y reviendras pas faire la cueillette. Ce qui restera sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. Si tu vendanges ta vigne, tu n'y reviendras pas grappiller. Ce qui restera sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave. C'est pourquoi je t'ordonne de mettre en pratique cette parole. Père, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, on va revenir sur ces textes. Si vous le voulez. Pardon, excusez-moi, si vous le voulez bien, sur ces trois textes. Ce qui est intéressant à propos de ces trois textes, c'est qu'ils se complètent les uns les autres et qu'au final, ils nous disent ce que c'est que la bonne nouvelle. Si on y regarde d'un peu près, ce que c'est que le royaume, c'est-à-dire cette présence de Dieu dans le monde au total, qui se manifeste à travers des paroles et à travers nos manières de faire et d'agir, bien sûr. Voilà. Alors Adam et Ève, dans le premier texte, on va voir ces trois textes les uns après les autres, vous allez voir qu'ils s'emboîtent assez bien. Adam et Ève sont dans l'Éden, donc ils ont tout sous la main, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre, il n'y a aucun problème de ce côté-là, sauf que ils vont transgresser l'interdit. C'est-à-dire que y a un interdit qui est posé et ils ne doivent pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein, et ils doivent absolument obéir. Voilà. Donc ils vont transgresser l'interdit, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas suivre cet interdit, c'est-à-dire qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, évidemment. Avant la transgression de cet interdit, on peut penser qu'ils sont dans une sorte d'innocence, hein, mais que la connaissance du bien et du mal mettra fin à cette innocence, peut-être d'abord par la prise de conscience de ce qu'ils font, évidemment. Alors la théologie classique parle du péché, de la faute en ce qui concerne cette transgression et parle de punition en parlant de l'expulsion d'Adam et Ève hors du jardin d'Éden. C'est cette expulsion que nous avons lue, je ne vous ai pas lu ce qui précède, c'est un petit peu long. Alors moi, quand je lis ces textes, je me dis, est-ce que c'est si simple que cela? C'est pas sûr, je veux dire. C'est pas sûr parce que la transgression est nécessaire. On ne peut pas vivre sans une certaine forme de désobéissance et une certaine forme de transgression de choses qui semblent importantes, de barrières qu'il faut franchir, que sais-je encore. Voilà, si on veut grandir, il faut y aller. Il faut y aller, il faut vivre, il faut risquer, etc. Donc les interdits qui sont là, quelquefois, il faut savoir les violer, évidemment. Toutes choses égales par ailleurs, à condition de ne pas faire de tort à quelqu'un, ça va de soi, je veux dire, évidemment. Mais la question que je me pose, c'est s'il y a un interdit qui est posé, et qui est posé comme ça, qui est dit à Adam, bon, tu n'y toucheras pas, c'est interdit, ça implique aussitôt la tentation. Il suffit de dire à quelqu'un c'est interdit pour qu'on ait envie de le faire. Je relisais il y a quelques jours l'histoire de Louis XVI qui, dans les champs de Saint-Cloud, avait fait planter des pommes de terre. Et bon, qui était connu déjà, mais c'était un mets qui n'était pas recherché, qu'on réservait pour les forçats, etc. Et pour que ça prenne, il l'a fait garder par les soldats, le champ, en disant « moi, c'est interdit d'y aller ». Et évidemment, les gens des environs se sont dit « il y a quelque chose d'intéressant là-dedans », et automatiquement, ils ont cherché à voler des pommes de terre. Voilà, donc la tentation, là, a créé automatiquement la transgression. Pour le bénéfice de la population, évidemment, qui s'est emparée de ces pommes de terre. Mais je vous donne cet exemple que vous retiendrez assez facilement, mais il suffit de dire à un enfant « ça c'est interdit » pour que l'enfant ait automatiquement envie de le faire. Ça c'est vieux comme erreur, évidemment. Alors, je me pose la question, pourquoi Dieu a-t-il posé comme cela un interdit sur une chose qui semble aussi importante que la connaissance du bien et du mal? C'est peut-être parce que la chose est vraiment importante qu'il fallait mettre un interdit pour que, précisément, Adam et Ève transgressent l'interdit. Je pense que le responsable de la tentation, Dieu me pardonne, si je puis dire, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a provoqué cette tentation. Mais si Dieu l'a provoqué, c'est effectivement pour rendre nécessaire l'expulsion, c'est-à-dire pour quelque chose de positif, bien sûr, ça va de soi. L'expulsion devient nécessaire. Elle devient nécessaire parce que l'homme qui possède la connaissance du bien et du mal, qui est absolument nécessaire pour pouvoir vivre, finalement, ne doit pas avoir accès à l'arbre de vie. Parce que là, on entre dans un domaine qui est très particulier, je dirais, qui va être le domaine de Dieu. L'éternité, la domination sur la mort, c'est de l'ordre du domaine de Dieu. Dieu a pouvoir sur la vie et la mort. Et donc, si l'être humain a la connaissance du bien et du mal, plus l'accès à l'éternité, il est comme Dieu. Et c'est le retour au chaos. Si l'homme est comme Dieu, Dieu est comme l'homme, il n'y a plus de limite, sans parler du problème de l'orgueil qui peut en découler et de toutes les conséquences qu'il peut y avoir à l'orgueil des hommes, c'est-à-dire une succession de malheurs et d'événements assez graves que l'histoire nous rapporte avec une certaine fidélité, malheureusement. Et alors, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait cette expulsion du Jardin d'Éden qui va permettre à Adam et Ève de vivre leur vie, de vivre leurs projets, de leurs expériences finalement, hein, et de goûter à la liberté. La liberté qui est nécessaire pour vivre. Et si on veut être absolument libre, si on veut vivre ses expériences et ses projets, eh bien, il faut quitter le cocon de l'Éden. Le cocon de l'Éden, c'est comme une sorte de matrice dans laquelle on est bien, etc., mais on ne vit pas complètement. Je veux dire, il faut quitter pour vivre. Et ça, les parents le savent très bien, je veux dire, et les psychologues de l'enfance aussi, hein, et les enfants doivent un jour quitter le cocon familial, l'Éden familial, pour prendre leur envol et partir. Partir, vivre leur vie. C'est-à-dire, coûter à la liberté. Mais, c'est une liberté qui est particulière, puisque dans cette liberté, Dieu est présent. Il veille sur Adam et Ève, puisqu'il les équipe pour vivre cette liberté, il les habille. Il ne les laisse pas partir nus sans rien. Il les habille de peau de bête. C'est-à-dire que Adam et Ève sont véritablement sous le regard de Dieu. Et ça, je crois que c'est un des premiers aspects de la liberté et de la bonne nouvelle. Cette liberté sous le regard de Dieu, on va la retrouver dans le Nouveau Testament, dans la Deuxième Alliance, en particulier chez l'apôtre Paul, qui va développer ce thème dans l'Épître aux Romains et en particulier dans l'Épître aux Galates. Hein, lorsqu'il dit « Frère, vous êtes appelés à la liberté », dire « Mais c'est une liberté avec la loi qui est là présente », c'est-à-dire avec la présence de Dieu. Dire, donc c'est quand même important. Mais la liberté est là, elle est posée dès le début de la Bible, dans les premières pages, elle est liée à l'acte de la création. Pour vivre, il faut de la liberté, hein, de même que pour créer, comme Dieu l'a créé le monde, eh bien, il fallait une liberté absolue. Alors vous me direz, est-ce suffisant ? Bien sûr que non. Cet équipement, il va être complété par la loi. Il va être complété par la loi que Dieu donne, et une loi qui est nécessaire parce que la liberté risque de déraper dans l'anarchie. Dire l'anarchie, c'est très sympathique, je veux dire, parce qu'on veut dire, effectivement, bon, pas de pouvoir, pas d'entrave, etc. Donc c'est tout ça, c'est sympathique, et moi j'aime bien l'idée, mais il faut quand même faire bien attention que l'anarchie, c'est quand même la loi du plus fort. Et à partir du moment où il n'y a plus de loi pour protéger les plus faibles, ce sont les plus forts qui se taillent la part du lion. Je veux dire, hein, ou si la loi est mal faite, ce qui arrive hélas extrêmement souvent, elle peut être faite au bénéfice des plus puissants. Je veux dire, évidemment, c'est une forme d'anarchie et de perversité là, dans ce cas-là. Mais il faut éviter le dérapage de l'anarchie et donner une loi. Or, la loi biblique, elle est intéressante parce qu'elle réaffirme d'abord et avant tout la liberté. Dire, écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et libéré de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. Enfin bref, voilà. Donc le préambule aux fameuses 10 paroles, ça s'appelle le décalogue, eh bien c'est l'affirmation, la réaffirmation de la liberté qui est là, mais d'une liberté qui va être encadrée, si je puis dire, par la loi. Une liberté qui est réaffirmé et qui prend en compte les plus démunis. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le quatrième commandement de la première table de la loi, et ça je trouve que c'est assez important. Dieu donne la loi, et donne la loi avec cet amour de l'autre finalement, et dans les commentaires de la loi, on va trouver effectivement les veuves, les orphelins, les immigrés. Les veuves, il est dit, il faut y faire attention parce que c'est la condition la plus difficile. Il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas d'assurance vieillesse, etc. dans l'Antiquité. Et il est bien dit que tu ne prendras pas les habits de la veuve. Tu ne prendras pas les habits de la veuve. Ça, c'est inaliénable. Dans un autre passage du commentaire de la loi, c'est que même si quelqu'un a des dettes, etc., on peut tout lui prendre sauf son manteau. Dire, parce que c'est ce qui nous protège. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Je veux dire, il y a quelque chose qui protège l'individu, qui est le manteau, qui fait référence à ce que Dieu a donné à Adam et Ève, ces fameuses peaux de bête dont il a revêtu Adam et Ève. Donc il y a une protection de Dieu qui est affirmée, réaffirmée dans la loi plusieurs fois. Je veux dire, donc on peut aller loin pour faire payer quelqu'un qui a des dettes, mais mais il y a une limite qu'on ne doit absolument pas dépasser. Parce que la nudité imposée à quelqu'un, d'abord c'est la violation de son intimité, je veux dire, et évidemment c'est une dégradation de l'individu aussi, hein, quand on veut dégrader un individu, on peut le mettre à nu, c'est la vulnérabilité évidemment, ça va de soi, le froid aussi, ou le soleil brûlant, etc. Donc, dire dépouiller un individu complètement, c'est quelque chose de très très grave. Je mets de côté, évidemment, dans les sociétés modernes, tout ce qui peut être de la nudité exposée par idéologie, ou etc. On est dans un autre registre. Hein. Mais normalement, on ne doit pas toucher à la dignité de l'être humain. Il en est pareil, il en est de même avec les immigrés. Il dit, hein, les immigrés, les pauvres, la veuve, etc., tu feras attention de leur laisser toujours quelque chose pour qu'ils puissent vivre. Hein, quand tu feras ta récolte, ben bon, c'est sympathique pour toi d'avoir une belle récolte, mais il ne faut pas oublier l'individu qui est dans la pauvreté, qui puisse aller grappiller dans la vigne ou dans les champs, que sais-je encore, ramasser pour qu'il puisse vivre. Hein, la loi fait cas des plus pauvres. Bien sûr, pareil pour le salaire qui doit être versé afin que le travailleur ne rentre pas chez lui après une journée de travail sans avoir de quoi nourrir sa famille et de quoi se nourrir lui-même. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, je veux dire, tout cela, parce que il y a une éthique qui est importante, une manière d'être qui est importante, évidemment qui fait quelquefois défaut dans nos sociétés modernes. On a tendance un petit peu à l'oublier. Je veux dire. Mais je pense, par exemple, à une coutume qui avait lieu autrefois, je sais que j'en ai entendu parler de manière très très précise dans les Cévennes, où à table il y avait une place vide pour justement le routier qui passait par là, le gars qui faisait la route à pied, ou le pauvre qui frappe à la porte, il fallait qu'il ait sa place à table. Et donc c'est intéressant de voir un petit peu qu'il y a eu des applications, voilà, il y en a encore évidemment, il ne faut pas noircir le tableau aujourd'hui, hein, mais c'est intéressant de voir que la loi s'intéresse aux plus pauvres, aux plus démunis, et les pose dans leur existence, dans leur dignité d'humain. Mais ça pose aussi la responsabilité. C'est-à-dire, si tu fais une bêtise, c'est pas ton fils qui paiera. Si ton père fait une bêtise, c'est pas toi qui paiera. C'est ta responsabilité qui est là. Et ça aussi, la responsabilité de la personne qui est forte, qui a des moyens, ça fait partie aussi de sa dignité à elle. C'est-à-dire, vous voyez que d'un côté, la loi pose l'existence des plus faibles, et pose l'existence des plus forts, mais toujours dans une idée qui les rejoigne l'un comme l'autre, qui les lie l'un à l'autre, c'est la dignité de l'humain, finalement. La diaconie et la responsabilité viennent compléter, finalement, la liberté. Et ça confère, évidemment, à l'humain en général quelque chose d'extrêmement important, finalement, des qualités qui sont importantes et qui font la valeur, véritablement, de l'humain. Et je veux dire que dans mon ministère, j'ai eu l'occasion de vérifier cela, de voir la valeur de l'humain. Je suis toujours frappé de ces personnes très 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 âgées qui sont grabataires, qui ont perdu la tête même, et qui sont là et qui ont de la valeur. Elles sont comme la clé de voûte d'une voûte. C'est-à-dire qui tient la voûte, l'ensemble de la voûte, pour leur famille. C'est-à-dire que tous les membres d'une famille, les cousins, etc., les oncles, les tantes, etc., se retrouvent dans cet ancêtre commun qui est vivant. C'est-à-dire, et si cet ancêtre commun meurt, vient à mourir, ça crée un vide. Toujours un vide, un décès, c'est toujours un vide. C'est pour ça que c'est une question très, très intéressante, finalement. Ça crée un vide et, en général, la famille se brise. Il faut la reconstruire à ce moment-là et retrouver à nouveau des clés de voûte familiales qui puissent tenir la famille. Mais en général, lorsque l'ancêtre disparaît, souvent, il y a des membres qui s'écartent finalement, qui ne s'y retrouvent plus, etc. Donc c'est intéressant de voir que même des gens dont on pourrait dire ils ne servent à rien, c'est pas vrai, ils sont là, ils ont de la dignité, ils sont vivants et ils servent à quelque chose. Je ne parle pas de ceux qui peuvent raconter leurs souvenirs, etc. Enfin bref. Et puis je trouve ça intéressant intéressant aujourd'hui dans ce qui se passe aujourd'hui de voir qu'on est en train de découvrir qu'il y a des métiers qui sont relativement modestes, disons, mais qui sont tellement nécessaires, comme les aides-soignants et que sais-je encore, enfin bref, dont on parle assez souvent. Mais je veux dire, c'est intéressant de voir que, eh bien, il n'y a pas de gens qui soient au-dessus des autres quant à la dignité et l'intérêt qu'ils ont, mais que chaque être humain a en lui une valeur inestimable, unique et une dignité assez formidable, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, peu importe. C'est vrai ce que je dis, aussi bien pour les jeunes, les enfants, les adolescents ou les personnes d'âge mûr. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples. On aimerait bien arrêter la prédication là, mais la liberté, c'est un risque. C'est un risque qui fait qu'on dérape parfois, et qu'on veut même assez souvent, qu'à regarder l'histoire, que ce soit l'histoire des populations, la grande histoire, ou que ce soit l'histoire de nos familles ou notre histoire personnelle, on s'aperçoit que la liberté n'est pas quelque chose de simple à vivre, et que bon, il y a de la casse, comme on dit. Alors les Hébreux, ils sont partis d'Égypte. Ils ont goûté à cette liberté, mais une liberté qui était difficile puisque il a fallu traverser le désert, et donc ils arrivent aux portes de Canaan qu'il faut conquérir. Il faut conquérir, ce sera l'aventure de Josué, ça. Mais voilà, ils sont aux portes de Canaan, ils ont engagé déjà un premier combat, et bon, ils en ont assez. Ils en ont assez 40 ans dans le désert, avec bon, toutes les aventures qu'il y a dans l'Exode, et ils murmurent, comme on dit, ils râlent, ils en ont assez, donc ils se retournent vers Moïse et vers Dieu, et ouais, si on avait su, c'était mieux avant. Tout le monde le dit, c'était mieux avant. Évidemment, quand on était jeune, c'était mieux que quand on était vieux, que quand on est vieux, on est en meilleure santé, etc. Enfin bref, voilà, et puis on oublie les mauvais moments. Mais voilà, ils sont comme ça, ils râlent, ils n'arrivent pas à assumer leur liberté. Alors évidemment, il y a cette sanction qui tombe, les serpents brûlants qui les mordent, qui les ramènent à la réalité. Alors certes, c'est une punition, mais c'est aussi la grâce. Parce que c'est intéressant de voir que dans la Bible, lorsqu'il y a une punition divine, il y a toujours une ouverture à la grâce, d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est le serpent des reins. Le serpent des reins, on ne sait pas très bien d'où elle sort, cette histoire du serpent des reins. Les exégètes remarquent que le caducée, le fameux caducée, on le retrouve dans d'autres cultures, en Grèce en particulier, etc. Ça se trouve dans le texte que nous avons lu, évidemment, et c'est un texte qui est très connu. Mais ce serpent d'airain qui est là, il est élevé donc sur cette rampe, sur ce bâton, et il rappelle évidemment la mort de Jésus. Jésus qui est élevé sur la croix. Donc on trouve évidemment un parallèle entre la mort de Jésus et le serpent d'airain qui sauve. Là aussi, on voit que l'Ancien Testament peut nous ouvrir évidemment à la compréhension du Nouveau Testament. Il faut faire attention parce que lorsqu'on est avec des Juifs, eux, ils ne voient pas l'Ancien Testament comme ça, ils le prennent pour eux évidemment, mais ils ne font pas le lien avec Jésus. Ce sont les théologiens chrétiens qui, partant de Jésus, remontent vers l'Ancien Testament pour trouver des liens. Hein, effectivement. Mais dans tous les cas, le serpent d'airain, il est là pour dire Dieu, le Dieu d'Israël, est un Dieu sauveur. Et c'est ça, c'est intéressant. Regardez à Dieu, quand on est dans la difficulté et le malheur, c'est regarder au salut, ça sauve. Alors, c'est le Dieu, évidemment, qui préside à la vie et à la mort, hein, c'est ce qu'il dit ce texte, hein, et ça n'est pas de l'ordre de l'humain qui, lui, ne connaît que le bien et le mal, mais pas la vie et la mort, il n'en a pas accès, il n'y a pas accès. Alors, ce rappel à l'ordre des serpents brûlants qui est assorti de la grâce, hein, du salut, ça s'inscrit dans le message de la bonne nouvelle, évidemment, parce que la repentance, c'est cette brûlure finalement, c'est une brûlure. Quand on a fait une erreur grave ou une faute grave, on a le regret, on a le remords, on a la culpabilité qui sont là et qui peuvent vraiment empêcher de vivre. Je veux dire, n'importe quel psychologue ou n'importe quelle personne qui analyse un petit peu les comportements humains le sait, je veux dire. Hein. Et donc, le serpent brûlant, ça colle tout à fait à cette manière de voir la repentance comme une brûlure morale et spirituelle dont on guérit par la grâce, précisément. Hein, et c'est cette grâce dont on a conscience parce qu'elle nous est offerte d'abord par ce Dieu de la première alliance, mais qui se retrouve évidemment dans toute la prédication de Jésus, qu'on peut être relancé dans la vie, c'est-à-dire relancé dans la liberté et la responsabilité, bien sûr, hein, qui est renforcée par cet aspect de la grâce, de la repentance et de la grâce, hein, et on est relancé donc dans la liberté, la responsabilité et la dignité. Dire. Et ça, je crois, c'est quelque chose qui est tout à fait important et qu'il faut saisir. Chacun d'entre nous, qu'il soit jeune, qu'il soit moins jeune, qu'il soit chrétien, pratiquant, agnostique, athée, appartenant à une autre religion, a une valeur inestimable. L'être humain a une valeur inestimable. C'est un être de liberté, de dignité et de responsabilité. C'est ce que nous disent au final ces textes. Alors aujourd'hui, je crois que c'est important de le mentionner, nous sommes dans une situation où la mort est présente. Non pas que quantitativement parlant, il y ait énormément de morts, n'oubliez pas que jusqu'à présent, il y a encore 7 milliards de rescapés dans le monde, vous avez bien entendu, 7 milliards de rescapés dans le monde, hein, mais cette pandémie a fait prendre conscience aux êtres humains qui sont des êtres mortels. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Notre finitude est marquée par cette expérience et par cette épidémie qui nous accable, évidemment, hein, et qui a fait dans les 200 000 morts dans le monde, un peu plus. Ça augmente les angoisses et les peurs automatiquement quand on prend conscience que la mort est présente et qu'elle rôde et qu'elle peut frapper comme ça. Et pourtant, je crois que lorsqu'on lit ces textes de la Première Alliance, et évidemment ceux de la Nouvelle Alliance, ça va de soi, hein, le Nouveau Testament. Pourtant, notre dignité, elle est toujours marquée. Elle est toujours marquée. Et cette dignité, précisément, c'est de pouvoir faire face. C'est cette presque obligation, c'est pas tout à fait le mot, mais hein, cette nécessité c'est, qui nous pose là, dans notre être, qui nous dit, ben, on va faire face. On ne va pas abdiquer devant le problème du mal, de l'injustice, du hasard aussi. Hein, et donc, ça fait partie de notre dignité. Et c'est aussi notre liberté de choisir une nouvelle société plus juste. Beaucoup de gens se disent, ça va être comment après? Eh bien, justement, après, justement, il y va de notre liberté de dire, comme Ézéchiel le disait, on va s'en sortir, on va pas être sur des pâturages gras, etc. Ça va repartir, mais ça va partir dans une société qui est plus juste, je veux dire, plus juste pour les hommes et pour la création. Et c'est notre responsabilité qui est engagée. Vous voyez que on trouve aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, toutes ces valeurs qui sont soulignées dans la Première Alliance à travers les textes que je vous ai lus et dans bien d'autres textes aussi, hein, pour nous dire, ben voilà, il y a un message d'espérance absolument fantastique qui est inscrit en filigrane dans toutes les pages de la Bible et qui, évidemment, explose, si je puis dire, au grand jour dans la Nouvelle Alliance, dans la prédication de Jésus-Christ. Bâtir à nouveau, c'est l'espérance qui est là, que nous avons avec Dieu. Je veux dire, bâtir à nouveau, c'est bâtir le royaume. Bâtir le royaume là, avec Dieu et avec les hommes. Et bâtir à nouveau, c'est bâtir une vie nouvelle avec Dieu, avec les hommes et avec l'ensemble de la création qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que cette création, c'est le souci majeur de notre année. Là, il faut pas l'oublier avec tous les soucis que nous avons. Voilà, frères et sœurs, j'espère que ce message est un message de force, un message d'espérance, un message qui nous met debout, c'est-à-dire qui nous met du côté des ressuscités et des vivants, un message qui nous relance dans la vie, comme Dieu a relancé Adam et Ève dans la vie, pour qu'ils soient face à leurs projets, à leurs responsabilités, en sachant que Dieu accompagne toujours lorsqu'on va vers la justice, vers la vie, vers la nouveauté et vers l'aventure. Amen. Voilà, on va écouter un cantique traditionnel irlandais. Thank you. Voilà, nous allons vivre la Sainte Cène maintenant. Et je veux dire que pour vivre la Sainte Cène, il y a un essentiel qui est véritablement l'institution de la Sainte Cène. Et autour de cet essentiel, il y a mille et une manières de vivre le partage. Je pense dans mon ministère à ces Saintes Cènes que j'ai partagées avec deux ou trois personnes, pas plus, dans une cuisine d'une ferme perdue sur le plateau Lorrain, par exemple. Je pense à des Saintes Cènes que j'ai présidées et partagées avec, en tête à tête avec des malades gravement atteints et même avec des gens dans un coma conduisant à la mort. Ceci pour vous dire que la Sainte Cène, ce qui compte, c'est véritablement ce qui se passe quand on partage ensemble ces paroles de l'institution et cette présence qui nous unit les uns les autres de manière assez mystérieuse. Je vous dis ceci parce que nous sommes séparés les uns des autres par la distance, puisque notre assemblée doit passer par Montpellier, les Charentes, la Normandie et l'Île-de-France et la Lorraine vraisemblablement. Donc ceci pour vous dire que la distance n'y fait rien. Ce qui compte, c'est l'être ensemble de manière spirituelle. Il y a une forme de liberté qui se passe là aussi, évidemment. Et je crois qu'il y va de la dignité de tout un chacun de savoir que devant Dieu, il n'y a aucune différence entre les hommes et que tout un chacun est évidemment invité à participer à la Sainte Cène. Pas question de regarder si on est comme ceci ou comme cela, si on est trop jeune, trop vieux, trop chrétien ou pas assez ou que sais-je encore. Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est vraiment l'être avec, la commune. Pour cela, on va être unis spirituellement parlant. Les signes du pain et du vin, on les aura chez nous. Sur votre table là de cuisine ou le bureau ou la salle à manger, j'en sais rien. Voilà. Et donc on partagera le pain et le vin pendant qu'on entendra le cantique de À toi la gloire, évidemment, qui sera chanté par un chœur, je sais plus qui c'est qui le chante, mais enfin peu importe. mais c'est pas l'oratoire. Donc c'est un autre chœur qui nous chanteront, c'est le chœur des protestants en fait en 2017. Voilà, donc il y avait une assemblée considérable, il y avait plusieurs milliers de protestants. Voilà, donc on entendra le choral de ce grand culte de 2017. Voilà. Autre chose pour vous dire la liberté peut-être qu'il y a autour de la Sainte Cène. En réfléchissant à cette Sainte Cène là, je pensais à Jésus. Évidemment, c'est pas très original. Mais si Jésus avait été africain, eh bien il aurait fait la Sainte Cène avec une galette de mil et sans doute du vin de palme. Si Jésus a été japonais, il lui fait la Sainte Cène en prenant une galette de riz avec du saké, je veux dire. En Chine, il aurait pris un M, peut-être, et une bière chinoise, je ne sais pas. Et s'il avait été mexicain, il aurait pris une galette de maïs avec un bol de chocolat. Voilà. Et ce qui était essentiel, c'est de se dire il y a ces nourritures de base qui sont là, qui signifient la vie, et au-delà de ces nourritures de base, comme le pain et le vin chez nous, il y a ce qui signifie la vie spirituelle, qui est la parole et la présence du royaume. Donc vivez un petit peu cette scène dans la liberté, et comme il faut la vivre, dans le respect et dans la dignité, bien sûr. Et là aussi dans la responsabilité, ça va de soi, qui découle de tout cela. Donc je vous invite à prier Dieu. Père, nous sommes réunis les uns les autres dans une communion d'esprit. Nous sommes réunis en étant d'horizons divers, avec des cultures, des richesses personnelles que nous mettons en commun, là, pour te présenter cette réunion. Nous sommes réunis autour du pain, du vin, là où nous sommes, précisément, mais ce sont nos lieux de vie, c'est notre nourriture de base, c'est le fruit d'un travail de gens qui ont préparé tout cela pour que ça vienne jusque sur nos tables. Et nous te remettons tout cela, Père. Parce que par ton esprit, signifié par ce partage du pain et du vin, tu affirmes ta présence dans ce monde, une présence dont le monde a besoin, parce que ta présence, c'est un signe d'espérance fantastique, formidable, qui nous dépasse infiniment et qui fait de nous des ressuscités avec Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, la veille de sa mort, était réuni avec ses amis, avec les compagnons, les 12. Et pendant le repas, il prit du pain, nous dit Marc. Et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, il le leur donna, il dit, prenez, ceci est mon corps. Puis, il prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous. Et il leur a dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Oui, Père, il y a du pain et du vin, peut-être bien d'autres choses sur nos tables aussi. Bénis ce pain et ce vin. Que par cette présence, par ce partage, nous puissions réaliser que tu es bien là au cœur de nos vies. Une force, une dynamique qui vient du fond des temps, qui transperce et traverse l'éternité pour nous toucher et nous porter vers un ailleurs, toujours vers un ailleurs, vers un devant nous, quelque chose qui nous met en route. Oui, Père, nous voudrions te remercier dans cette prière pour ces récits de la Première Alliance, pour la prédication de Jésus-Christ et pour le sens de ce dernier repas que Jésus a vécu et qu'il a partagé avec ses amis. Oui, Père, nous sommes rattachés au-delà du temps et de l'histoire à ce dernier repas, et nous aussi, autour de cette table où il y a les 12 disciples, nous sommes aussi présents. Présents dans une foule innombrable, où chacun a sa place, chacun a son nom, chacun a sa vie, sa dignité d'être, sa liberté de faire. Père, merci. Merci pour la Sainte Seine, pour les signes du royaume qui sont là dans un monde qui a besoin de ces signes. Merci, Père, pour l'amour que tu signifies au monde, par tous ces signes et par tous ces textes. Amen. Voilà, il y a du pain, il y a du vin. Que ce pain et ce vin signifient pour vous toutes et tous la nourriture essentielle, la nourriture de l'espérance, de la force de vie, la nourriture d'une parole qui vient d'ailleurs et qui vous fait vivre. Amen. Et je vous invite à prendre le pain et le vin en entendant le cantique « D'à toi la gloire » chanté pendant la fête des protestants en 2017 à Paris. Pierre, merci pour ce moment de Sainte-Seine et puis ce rappel de cette réunion de Paris, de protestants en fait, avec ces milliers de protestants qui chantaient à toi la gloire. Et pourtant, il y a des choses qui sont peut-être plus sérieuses que nous voudrions te présenter. Oui, la Sainte-Seine, on voudrait qu'elle soit la table ouverte au monde entier, pour que le monde vive dans ta présence, que le monde vive de ta parole et de l'espérance et du courage d'être, finalement. Parce que, Père, la mort avait disparu de nos horizons. Elle était refoulée, cachée. Mais la mort revient. Elle est obsédante. Elle rappelle nos fragilités. Alors, Père, nous sommes bien souvent comme les Hébreux d'autrefois qui, dans leurs psaumes, s'adressaient à toi dans leur détresse. Écoute nos prières. Elle porte en elle bien des gens et des situations auxquelles nous pensons. Et les familles endeuillées, bien sûr. Et les malades du corona ou de toute autre maladie grave, bien sûr. Et puis, il y a tous les autres. Par exemple, les sans domicile fixe, un peu plus seuls aujourd'hui. Parce que les institutions caritatives sont fermées dans bien des cas. Il y a les émigrés, bien sûr, dans la même situation. Mais plus loin, ailleurs, au-delà des limites de nos frontières, il y a des souffrances et des menaces qui sont là. Pense en particulier à cette invasion des criquets dans l'Est africain qui menace de famine tous les pays qui sont là-bas autour de la Tanzanie. Et puis les pays en guerre. Les pays en guerre qu'on oublie en ces jours où nous sommes repliés un peu trop sur nous-mêmes. Oui, Père, il y a des proches, des parents, des amis, ils sont là dans nos mémoires, ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont dans la joie, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Ils sont tous réunis dans une même prière. Père, inspire les uns et les autres, dirigeants ou simples citoyens, croyants ou incroyants, qu'ils sentent ta présence malgré les difficultés. Et qu'il puise en ta parole la force pour pouvoir construire un monde nouveau fondé sur la justice, la dignité de la création et des humains. Nous avons tant et tant de choses à te dire, Père. Des moments de prière et des noms et des situations qui nous sont personnelles, que nous remettons dans le secret de nos cœurs et dans la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, ne perdez pas de vue ceci, c'est que les textes de l'Écriture, le témoignage que nous en avons, nous disent la valeur que les uns et les autres nous pouvons avoir, nous disent nos responsabilités et notre dignité. C'est une bénédiction de le savoir et d'en avoir conscience. C'est une bénédiction, c'est une parole positive, et que cette parole positive vous accompagne. Les uns et les autres, tout au long des jours à venir. Oui, si nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il nous apporte, de force, de vigueur, de dignité, de liberté, c'est lui qui d'abord nous bénit afin que nous puissions vivre ainsi. Vivre la liberté des enfants de Dieu et la dimension du royaume. Allez en paix. Amen. Et on va écouter la chanson pour l'Auvergnat chantée par John Baez.
À toi, cette chanson, toi, l'Auvergnat qui est sans façon, m'a donné quatre bouts de bois. Comme dans ma vie, il faisait froid. Toi qui m'as donné le feu quand. Les croquantes et les croquants. gens bien intentionnés m'avaient fermé pour ton aide. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore. Te conduisent à travers ciel, pauvre éternel. Elle est à toi, cette chanson, mélodie qui est sans façon. Quand à ma vie il faisait faim, toi qui m'as ouvri la huche quand les croquantes et les croquantes, tous les gens bien intentionnés s'amusent à me voir jeûner.
Voilà, écoutez à toutes et à tous, un très très bon dimanche.